Je ne dormis pas cette nuit-là, car toutes les fonctions de mon esprit et de mon corps étaient disponibles. Machinalement, je ramenai une fois de plus le bateau dans la direction de l'ouest. À peine avais-je parcouru 2 miles que je me trouvais devant les falaises de Douvres. Au sommet du château Crenley, l'Union Jack pendait au mât, immobile. J'entendis 8 heures, puis 9 heures sonner dans ma cabine, et j'étais toujours en mer. Mais j'eus un sursaut d'énergie, et le 2 septembre, à 10h30, le Boréal jeta l'ancre devant la maison des douanes de Douvres, après un voyage de 3 ans, 2 mois et 14 jours. La chaîne d'ancre se déroula avec un bruit de tonnerre à travers les cubiers de tribord. Ciel, je devais être fou pour avoir mouillé l'ancre. Ce tintement étourdissant, rompant brutalement le calme de ce cimetière en cette matinée bénie, me parut effroyable. J'étais épouvanté par ce raclement de ferraille. Je tremblais de tous mes membres. Les trompettes du jugement dernier ne devaient pas faire plus de vacarme, et j'imaginais que l'armée des morts ne pouvait manquer de se réveiller à ce formidable appel pour venir m'interroger de leurs yeux vides. Au sommet du cross-wall, un crabe rampait. Un peu plus loin, à l'entrée d'une rue, je vis au pied d'un bec de gaz un nègre couché face contre terre, vêtu d'une chemise et chaussé d'une seule chaussure. Le port était encombré d'une véritable flottille. Les cadavres s'entassaient sur le courrier calé Douvres, encore au mouillage, et qui se frottait continuellement contre un brick vert. Devant ce spectacle, je tombai à côté du cabestan et me mis à sangloter en disant « Seigneur Dieu, tu as détruit l'œuvre de tes mains ». Au bout d'un moment, je me relevai, descendis dans le carré comme un somnambule, pris un paquet de galettes de pemmican et sautai à terre. Je suivis la voie ferrée qui part de la jetée de l'Amirauté. Sur un remblai, je découvris 5 cadavres, et je ne pouvais croire que j'étais en Angleterre, car c'étaient tous des Africains, des Noirs. 3 d'entre eux étaient habillés de couleurs voyantes, les 2 autres portaient des robes flottantes. Ce fut la même chose dans une rue qui mène au nord de la ville. Il y avait des morts par centaines. Jamais, sauf à Constantinople, où j'avais vécu 18 mois, je ne vis un tel mélange de races, des noirs, des jaunes, des blancs. Quelques-uns avaient le visage émacié, comme s'ils étaient morts de faim. Tout en haut, un jeune garçon, en col étonne, était assis sur une bicyclette appuyée à un lampadaire qui l'entourait d'un bras. Cela prouvait l'extraordinaire rapidité avec laquelle la mort les avait tous surpris. Je ne savais ni où j'allais ni pourquoi, ni si tout cela était vraiment arrivé sur la planète que j'avais autrefois connue ou sur une autre. Mon âme désincarnée était peut-être le jouet d'un fantasme. Moi-même, j'étais peut-être mort depuis longtemps, et mon esprit rôdait à travers un espace où il n'y a ni nord, ni sud, ni haut, ni bas, ni mesure, ni rapport, ni rien de ce qui sauve une conscience inquiète d'un rêve d'anéantissement. Je ne me souviens même pas d'avoir ressenti de la tristesse ou de la douleur. Je crois me rappeler cependant qu'une sorte de sanglot ou de gémissement secoua mon cœur, à intervalles réguliers pendant 2 ou 3 jours. Ce n'était pourtant pas tout à fait cela. En même temps, mon esprit recueillait, comme une machine enregistreuse, les détails les plus frivoles. Le nom d'une rue, Strand Street, Snargate Street, le bonnet de fourrure, le bord noir et la coiffe en hermine, d'un gros prêtre caraïte étendu sur le dos, la soutane remontée jusqu'aux genoux. Un archer de violon entre les dents irrégulières d'un petit espagnol, les cheveux coiffés en arrière, les yeux exorbités. D'étranges souliers aux pieds d'une jeune française, l'un jaune, l'autre noir. Tous gisaient là comme des canonniers tombés à côté de leurs affûts, à quelques centimètres de distance. Comme en Norvège et sur les bateaux, La plupart avaient l'air effaré. Ils avaient les bras étendus, les autres membres étrangement contractés, comme des êtres qui, au moment de mourir, implorent les rochers et les collines de leur consentir un abri. Je débouchais dans la campagne par un passage nommé, je crois, « The Shaft ». Je le traversai et j'escaladai un grand nombre de marches, dont je commençai à faire le compte, puis j'y renonçai. Je commençai aussi à compter les morts, puis je cessai de le faire. Finalement, en haut des marches, je me trouvai sur une éminence dominant le château. Je trouvai un vaste terrain parcouru d'allées de gravier, sur lequel étaient construites des fortifications, des baraques et une citadelle. Je fus surpris de la vue étendue qu'on avait de cet endroit. Du côté du château de Douvres, à l'est, on apercevait des maisons de briques ou de pierres serrées les unes contre les autres. De loin et dans la brume azurée, elles formaient un agglomérat indistinct. À droite du port, c'était la mer et les bateaux. Au-dessous de moi, sur une élévation de terrain, 9 ou 10 morts mangeaient la poussière. Le soleil était haut dans le ciel et il faisait chaud. À peine quelques nuages dans le ciel. Au loin, la côte normande apparaissait comme un autre nuage. C'était trop imposant pour un homme seul. Le cœur lourd, je m'assis sur un banc de bois. Ce spectacle m'accablait. La tête dans les mains, je retrouvais dans ma mémoire une vieille chanson des rues que je fredonnais dans une sorte d'état second, comme une psalmodie funéraire, en battant la mesure avec mon paquet de pemmican dans la main droite. Je la levai et je la baissai en cadence. J'achèterai la bague, vous élèverez les enfants, et nous aurons des servantes pour s'occuper de nos ting-ting-ting. Ting, ting, serons-nous heureux? Ting, ting, oui, sans aucun doute. J'achèterai la bague, vous élèverez les enfants, et nous aurons des servantes pour s'occuper de nos ting, ting, ting. Divagant ainsi, je tombai par terre, la tête la première, et je dormis là 24 heures d'affilée, toute différence entre les vivants et les morts étant abolie. Je fus réveillé par une pluie fine. Je me levai et je sortis de ma poche mon chronomètre en argent qui était attaché à ma ceinture par une lanière de cuir. Je vis qu'il était 9 heures du matin. Il faisait sombre et un vent assez frais, presque une nouveauté pour moi maintenant, s'était levé. Je mangeai un peu de pemmican car je répugnais, bien à tort comme on le verra, à me procurer quoi que ce fût de ces milliers d'excellentes choses qui abondaient à Douvres. Il y avait certainement, dans les magasins de cette ville, de quoi m'alimenter pendant 100 ans. Après avoir calmé ma faim, je revins sur mes pas pour passer la journée en ville. Pourtant, il pleuvait et le vent soufflait en rafales. Dans mon esprit engourdi, je calculais que, d'après le nombre des navires en mer, Douvres devait être surpeuplé de morts, mais il n'en était rien. L'affolement et la panique avaient fait que tout le monde s'était précipité vers l'ouest, laissant la cité vide, à la discrétion de nouveaux arrivants. Ma première démarche fut d'entrer dans une épicerie, qui était aussi un bureau de poste et télégraphe, avec l'intention d'envoyer un message quelque part. Cette boutique était éclairée d'une seule lampe à gaz qui lançait ses dernières lueurs. À part un réverbère éclairé près de la jetée, ce fut la seule lumière que je vis. L'une et l'autre brillaient suffisamment, mais elles étaient un peu blêmes, comme les lueurs nocturnes surprises par le lever du jour. Ces lumières avaient dû rester allumées pendant des mois ou des années, car leurs flammes tremblotaient dans un dernier effort. Si ces quinquets étaient les deux derniers à briller encore, c'est qu'il avait fallu des mois pour épuiser le gazomètre. L'éclairage de la boutique permettait de voir un nègre au milieu de nombreux paquets étalés autour de lui. Sur le comptoir, il y avait une caisse enregistreuse vide, et près de celle-ci reposait la tête d'une petite femme dont les doigts étaient crispés sur le rebord du comptoir. Son visage reflétait une indicible terreur. Je passai de l'autre côté du comptoir, derrière un grillage de fer, et je répétais dans mon esprit l'alphabet morse avant de toucher à l'appareil, sans d'ailleurs me demander qui répondrait à mon message. Les vieilles habitudes étaient encore ancrées en moi, et mon esprit refusait d'admettre qu'il y eût une relation entre ce que je voyais et ce que je ne voyais pas. Je manipulais le levier et je regardais l'aiguille du cadran à ma droite. Elle ne remua pas. Je compris que le courant ne passait plus. L'appareil avait dû être court-circuité et la batterie était déchargée. Pris d'effroi, je me levai et quittai aussitôt la boutique, en oubliant de jeter un coup d'œil sur les nombreux télégrammes qui traînaient là, ce que j'aurais fait si j'avais eu mon bon sens. Au coin de la rue, je vis qu'une maison de belle apparence était ouverte et j'entrai. De la cave au grenier, il n'y avait personne, à part une jeune fille anglaise, assise dans un fauteuil, dans un salon garni de rideaux de Valenciennes et de satin bleu. C'était une pauvresse vêtue de guenilles. Elle était adossée, la tête rejetée en arrière, la mâchoire pendante, l'air stupide. Une pince Monseigneur traînait à ses pieds. Elle étreignait une liasse de billets de banque et avait deux montres sur ses genoux. Dans cette maison comme ailleurs, les cadavres étaient ceux d'étrangers ou bien de gens très pauvres, des vieux et des jeunes. Si je me souviens plus particulièrement de cette maison, c'est parce que j'y trouvais sur un sofa un journal, le Kent Express. Sans plus attendre, je m'assis et m'absorbais dans sa lecture. Voici ce que je pus lire dans un article que je déchirai et que j'ai conservé. Les communications avec Tilsit, Instenburg, Cracovie, Przemial, Gross, Vardein, Karlsburg et beaucoup d'autres villes de moindre importance, situées à l'est du 21e degré de longitude, ont cessé pendant la nuit, bien que, dans la plupart d'entre elles, les opérateurs dussent encore être à leur poste. Sans doute ont-ils été anéantis par le cataclysme qui se dirige vers l'ouest. Mais comme tous les messages envoyés d'Europe occidentale ont été accueillis par le même silence qui, pour la première fois, stupéfia la civilisation, celui de la Nouvelle-Zélande orientale, il y a 3 mois et 2 jours, nous pouvons seulement présumer que ces villes doivent être ajoutées à la liste lugubre. D'après les premières nouvelles du soir reçues de Paris, nous aurions pu prévoir, sans crainte d'erreur, non seulement leur destruction, mais même le moment où cela s'est produit. On peut évaluer avec précision la vitesse à laquelle le nuage qui fait le tour de notre globe progresse. Le professeur Craven pense qu'elle est de 100 miles et demi par jour, c'est-à-dire 4 miles 330 yards à l'heure. Sa nature et son origine n'ont pas encore été établies. Il semble que la masse gazeuse ne laisse rien en vie derrière elle. On dit que ce gaz a une odeur d'amande, mais des personnes hautement qualifiées pensent que c'est improbable. La sinistre couleur pourpre de cette nuée sombre et menaçante a été attestée par des fugitifs attardés qui ont pu voir avancer les rouleaux de la masse brumeuse. Est-ce la fin ? Nous ne le croyons pas, nous ne voulons pas le croire. Le ciel qui aujourd'hui sourit au-dessus de nos têtes va-t-il être couvert dans 9 jours, ou même avant, par cette exhalaison de la nuit? En dépit de ce que disent les savants, nous doutons encore. Pourquoi en effet ce drame de l'évolution dans lequel il nous semble reconnaître l'art consommé du dramaturge? Au 5e acte, le dénouement doit apporter une solution claire et satisfaire la logique. Mais l'histoire, si vieille soit-elle, en est plutôt au prologue qu'au 5e acte. Se peut-il que le metteur en scène, dégoûté de tout, veuille tout arrêter et suspendre la représentation pour toujours? La race humaine a sans doute beaucoup péché et fait un enfer de cette terre vouée au ciel. Si c'est le fumier de l'enfer qui l'étouffe aujourd'hui, on ne peut guère s'en étonner. Mais nous ne désespérons pas. La nature est économe. Demain, le monde sourira de nouveau. Lorsque ces événements auront pris fin, nous verrons un immense écriteau sur lequel seront écrits ces mots. Pourquoi avions-nous peur? Nous devons garder l'espoir, même si en ce moment, l'oiseau de la mort déploie ses ailes sur notre globe terrestre. En vérité, c'est parmi les plus humbles que nous trouvons l'attitude qui convient en la circonstance. La parole biblique est inscrite dans leur cœur. Bien qu'il m'ait abattu, j'ai confiance en lui. Écoute encore ceci, Seigneur. Ô Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Mais au moment même où nous parlons d'espoir, la raison, lorsque sa voix nous parvient, nous traite de rêveurs et le ciel se montre inclément. Aucun navire ne peut plus toucher le port de New York, et si là où nous sommes, des hommes meurent de privation par centaines de mille, c'est par millions qu'ils périssent en mer. Si les riches sont dans l'embarras, comment les indigents vivront-ils? Sur 1,5 milliard d'êtres humains, 850 millions ont déjà péri. Des empires civilisés se sont écroulés comme des châteaux de cartes et sont plongés dans l'anarchie. Des milliers de morts sans sépulture dans les rues de Londres ou de Manchester, voilà ce que nous laisse prévoir cette sorte de jugement dernier qui nous vient sous la forme d'un nuage et se propage autour du globe. Les guides de la nation ont fui. Le mari poignarde sa femme pour une bouchée de pain. Les champs sont à l'abandon. La foule se livre à l'orgie dans les églises, les universités, les palais, les banques, les hôpitaux. Nous avons entendu dire que la nuit dernière, 3 régiments territoriaux se sont mutinés. Les hommes révoltés ont fui de tous côtés en tuant 2 de leurs officiers. Ce royaume est la proie du mal. Dans plusieurs villes, la police semble avoir disparu. L'indécence s'étale partout. On a relâché les prisonniers et il en est résulté des crimes épouvantables dans différentes régions. Depuis 3 mois, l'enfer a pris possession de la planète. L'horreur, comme un loup, la dévore et le désespoir l'accable. Entends-nous malgré tout, ô Seigneur, et pardonne nos iniquités. Ô Seigneur, nous t'implorons, regarde-nous, ô Seigneur, et épargne-nous. Après avoir lu ces lignes et les autres articles du journal, qui n'étaient imprimés que d'un seul côté de la page, je restai assis pendant 1 heure, en contemplant un petit tas de cendres pourpres sur le plancher, près du fauteuil de la voleuse, qui était là pour l'éternité avec ses montres. Je n'éprouvais aucune émotion, cependant, ma curiosité était piquée. Peu à peu, cette curiosité prit un caractère morbide. Je voulais en apprendre plus sur ce nuage de fumée dont parlait le journal, sa durée, son origine, sa nature. Je sortis et je pénétrai dans plusieurs autres maisons à la recherche de journaux. Je n'en trouvais pas. Je finis par découvrir un kiosque ouvert. Il était couvert d'affiches à l'extérieur, mais soit qu'il ait été abandonné, soit qu'on n'ait plus rien imprimé depuis le jour où le journal que je venais de lire avait paru, j'y trouvais seulement 3 quotidiens d'une date bien antérieure, et je n'eus aucune envie de les lire. Il pleuvait maintenant, et le vent d'automne répandait dans l'air un mélange d'odeurs diverses, de fleurs et de pourriture. Je n'y prêtais guère attention. Je marchais, jusqu'à ce que je sois excédé de ne rencontrer que des spahis et des bachibouzouks, des grecs et des catalans, des popes russes et des prêtres coptes, des kalmouks, des égyptiens et des afghans, des napolitains et des cheikhs. C'était un cauchemar d'attitudes étranges, de keffiers jaune-vert, de turbans et de tarbouches rouges, de volumineuses robes de soie rose, de visages voilés, de nudités convulsées et de ceintures de mousseline. À 4 heures de l'après-midi, je me trouvai assis sur le seuil d'une maison, exténué, trempé par l'averse, mais je me relevai assez vite, car j'étais fasciné par ce bazar aussi hétéroclite que monotone, son bariolage et sa grisaille. À 5 heures, j'étais à la gare de Harbour Station. J'y vis une foule de cadavres, mais pas un seul train. Après m'être encore reposé, je repris ma promenade errante. À 6 heures, je me trouvais devant une autre gare, celle de Priory. 2 longs trains y étaient stationnés, tous les 2 bondés, l'un sur une voie de garage, l'autre à quai. En inspectant les 2 machines, je vis que c'étaient des locomotives à vapeur d'un modèle ancien. Le réservoir d'eau de la première était à sec, mais celui de l'autre en contenait encore une certaine quantité. J'examinai la machinerie, qui me parut en bon état, bien que rouillée. Il y avait suffisamment de combustible et d'huile de graissage. J'allais d'ailleurs en chercher un supplément dans un entrepôt voisin. Pendant 1 heure et demie, mon esprit et mes mains s'activèrent frénétiquement, et à la fin, le feu brûlait dans la chaudière et le manomètre enregistrait la pression. Quand le levier de la valve de sécurité, dont j'établis le poids à 2 atmosphères, se souleva, je sautai sur le quai et je tentai de décrocher les wagons, mais ce fut en vain. C'était un système d'accrochage automatique d'un type nouveau que je ne connaissais pas. Je n'insistai pas, la nuit était tombée. J'allumai les lanternes, heureusement garnies de pétrole. Je déposai ensuite le conducteur et le chauffeur, l'un sur le quai, l'autre sur les rails. Vers 8 heures, je quittai Douvres et la locomotive s'ébranla avec fracas dans la nuit froide et désolée.